VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. En Côte d'Ivoire, plus de 10 000 militaires, gendarmes et policiers sont mobilisés pour la 8e édition des Jeux de la Francophonie, dont la cérémonie d'ouverture est prévue demain à Abidjan. Près de 4 000 athlètes et artistes de 53 pays sont attendus pendant les 10 jours de la compétition, censée durer du 21 au 30 juillet. Les Jeux vont commencer alors que des tirs ont été entendus mercredi soir dans le quartier populaire de Yopougon à Abidjan. Mais la situation est redevenue calme dans la grande métropole ivoirienne. Ces tirs ont eu lieu quelques heures après un remaniement ministériel annoncé mercredi et la nomination de nouveau ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, un proche du président Alassane Ouattara. L'ONG Reporters sans frontières a dénoncé mercredi ce qu'elle appelle la condamnation inique d'un journaliste d'une chaîne de télévision indépendante au Niger. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Baba Alpha, condamné à 2 ans de prison, a été accusé d'avoir usurpé la nationalité nigérienne. Ce journaliste télé est connu pour sa liberté de ton et ses critiques acerbes envers le gouvernement nigérien, indique RSF dans un communiqué fustigeant la nature politique des poursuites. Baba Alpha et son père, âgé de 70 ans, ont été condamnés à 2 ans de prison et 10 ans de privation de tout droit civique et politique, selon leur avocat, Maître Boubacar Mossi, qui entend faire appel de cette décision. RSF s'insurge contre cette décision disproportionnée et appelle les autorités nigériennes à revenir sur cette condamnation assortie d'une confiscation des actes d'état civil jugés faux ainsi que d'une amende de 300 000 francs CFA chacun. Baba Alpha et son père sont écroués depuis le 3 avril à la prison de Niamey. Ce présentateur du journal télévisé a, entre autres, occupé le poste de président de la Maison de la Presse, une association qui regroupe les organes de presse du Niger.
Au Nigeria voisin, le gouvernement va envoyer des renforts de l'armée et de la police dans l'état septentrional de Kaduna en proie à des violences intercommunautaires. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole du vice-président Yemi Osinbajo, chef de l'état par intérim en l'absence du président Muhammadu Buhari. Le point avec John Lyndon.
32 personnes ont été tuées mardi dans des heurts entre éleveurs et agriculteurs dans la circonscription administrative de Kajuru, dans le sud de l'état de Kaduna. Des troupes avaient déjà été déployées dans cette région en avril en réponse à des violences intercommunautaires. Le niveau des renforts sera déterminé par les responsables de l'armée et de la police, a fait savoir le porte-parole présidentiel Laoulou Akande. Les fréquents affrontements entre éleveurs, peuls musulmans et agriculteurs chrétiens ont fait des centaines de morts dans l'état de Kaduna ces dernières années. Les litiges à l'origine de ces violences dans le centre et le nord du pays portent souvent sur la gestion des terres agricoles et des pâturages. Ils prennent parfois des tons religieux, le Nigeria étant peuplé presque pour moitié de musulmans et pour moitié de chrétiens. Les nouveaux incidents compliquent la tâche au gouvernement nigérian qui continue de lutter contre les islamistes de Boko Haram qui ont tué une soixantaine de personnes dans le nord-est du pays depuis le mois de juin.
Toujours concernant la lutte contre Boko Haram, Amnesty International dénonce des centaines de cas d'arrestation et de torture au Cameroun. Dans un rapport intitulé « Chambre de torture secrète au Cameroun, violation des droits humains et crimes de guerre dans la lutte contre Boko Haram », l'organisation de défense des droits humains basée à Londres pointe du doigt en particulier les troupes d'élite du bataillon d'intervention rapide BIR, déployé dans l'extrême nord du Cameroun pour combattre le groupe djihadiste. Samira Daoud, directrice adjointe pour l'Afrique de l'Ouest et centrale d'Amnesty International, interpelle les autorités de Yaoundé.
Cette lutte contre Boko Haram ne peut justifier l'utilisation de la torture ou de commettre des actes proscrits par les conventions internationales auxquelles le gouvernement est parti. Évidemment qu'il ne s'agit pas de généraliser, de dire que tous les agents du BIR et tous les soldats du BIR sont des mercenaires. Ce que nous disons, c'est que nous avons documenté suffisamment de cas pour considérer qu'il est urgent que les autorités diligentent une enquête sur cette pratique, à la fois de la détention au secret et sur la torture, afin d'établir les responsabilités et aussi parce qu'il est dans l'intérêt pour la réputation et préserver la réputation et l'honneur du BIR. Je pense qu'il est effectivement très important qu'une enquête soit faite et que les personnes qui sont responsables de ces actes soient sanctionnées, que ce soit à titre individuel ou dans la chaîne de commandement. Et donc, ce que nous demandons aux partenaires du Cameroun, c'est qu'au vu de cette présence et peut-être prolongée de leurs militaires sur la Salak, il est important que les États-Unis et d'autres partenaires enquêtent afin d'établir dans quelle mesure leur personnel avait connaissance de ces détentions illégales et des actes de torture.
Samira Daou, directrice adjointe pour l'Afrique de l'Ouest et centrale d'Amnesty International, joint à Dakar au Sénégal.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Actualité aux États-Unis maintenant. Le président Donald Trump marque ce jeudi ses 6 premiers mois à la tête de l'État. L'un des débuts les plus tumultueux d'un président dans l'histoire du pays. Le chef de l'exécutif américain enregistre de faibles taux d'approbation. Il fait face à une enquête sur une possible collusion de sa campagne présidentielle avec la Russie lors des élections de l'an dernier, ce qu'il réfute catégoriquement. Mais la plupart des partisans de Donald Trump restent persuadés qu'il réalisera son ambitieux programme pour, comme il le dit, rendre à l'Amérique sa grandeur. Mise en perspective, Jean Malone, récit Eric Manirakiza.
Il y a 6 mois, Donald Trump devenait le 45e président des États-Unis avec une promesse de moderniser Washington et changer tout le pays.
The time for empty talk is
le temps du verbiage est terminé. Maintenant, l'heure est à l'action.
Le chef de l'exécutif américain a dans la foulée signé plusieurs décrets annulant de nombreuses réglementations gouvernementales. Il a en outre remporté une importante victoire avec la nomination du juge conservateur Neil Gorsuch à la Cour suprême. Mais dès le début, le mandat de Trump était controversé, suscitant parfois des protestations de ses adversaires.
Trump et Pence doivent partir.
Et la mobilisation de ceux qui lui restent fidèles.
Ses partisans le croient, pas vous.
Pour un nouveau président, Donald Trump n'est pas très populaire, estime l'analyste Kyle Kondik de l'Université de Virginie.
La cote d'approbation du président Trump est, du point de vue historique, faible pour un nouveau président. Généralement, vous avez des présidents qui jouissent d'une période de lune de miel après leur élection.
Trump a connu un succès mitigé sur l'immigration, un argument électoral important. Les traversées illégales des frontières sont en baisse, mais l'interdiction temporaire d'entrée aux États-Unis visant 6 pays majoritairement musulmans fait toujours objet de contestations judiciaires. Toutefois, aucun problème n'a jusqu'ici inquiété Trump, en dehors de l'accusation de collusion de sa campagne avec la Russie lors des élections américaines de l'année dernière, une allégation qualifiée à maintes reprises par le président de chasse aux sorcières. Le limogeage du directeur du FBI, James Comey, a mené à la nomination d'un procureur spécial, Robert Mueller. Les révélations sur la rencontre l'année dernière entre Donald Trump Jr. et un avocat russe qui aurait proposé de lui fournir des informations compromettantes sur Hillary Clinton, l'adversaire de son père à la présidentielle, ont rajouté une couche aux allégations de collusion. Les démocrates, y compris leur leader au Sénat, Chuck Schumer, se disent inquiets.
Cette dernière révélation prouve que l'argument avancé par l'administration et le président, selon lequel il n'y a absolument aucune preuve de l'intention de la campagne Trump de collusion, ne tient plus.
La tension sur la Russie a fragilisé l'agenda de Trump au Congrès, mais cela pourrait changer, dit John Fortier.
Je pense que ce n'est pas approprié de juger un président sur ces questions pour les 6 premiers mois. Il faut souvent beaucoup de temps pour faire adopter les lois.
6 mois après, nul ne doute que Donald Trump a bouleversé Washington. Cependant, pour Kyle Kondik, ses promesses de changement relèvent du style, mais manquent de substance.
Relations États-Unis-Afrique, Washington a critiqué mercredi les pays africains qui ont soutenu la candidature de la RDC à un siège au Conseil des droits de l'homme. Le point avec Lionel Gaïma.
Nikki Haley, ambassadrice des États-Unis à l'ONU, a jugé que le soutien à la candidature de la RDC constitue, je cite, « un manquement inexcusable à la promotion des droits de l'homme par les pays africains ». Elle estime que cela attiserait encore le conflit dans ce pays. Madame Haley a ajouté que le Conseil des droits de l'homme peut être un atout pour le continent si les pays africains proposent des candidats crédibles. Le Conseil enquête actuellement sur les atrocités commises en République démocratique du Congo par les forces armées congolaises et les milices dans la région du Kasaï. Plus de 80 fosses communes y ont été découvertes. L'Assemblée générale de l'ONU doit voter en octobre pour pourvoir des sièges du Conseil des droits de l'homme fort de 47 membres. En plus de la RDC, les pays africains se sont mis d'accord pour proposer l'Angola, le Nigeria et le Sénégal pour occuper les 4 sièges alloués au continent.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.